Bonjour, mes frères et sœurs. Je suis ravi de vous revoir tous. Au moment où la plupart d'entre vous écouteront ce message, nous serons le 4 juillet 2026. Et à moins d'avoir vécu reclus sous un rocher, vous saurez qu'il s'agit du 250e anniversaire des États-Unis d'Amérique. Il s'agit évidemment d'une étape très importante. C'est un événement majeur pour ce qui est non seulement la nation la plus puissante à l'heure actuelle, mais aussi la nation la plus puissante de l'histoire du monde. Et bien que cette commémoration, cette célébration, soit dans bien des cas typiquement américaine, je comprends que mon public se trouve bien au-delà des côtes des États-Unis. Et ce sujet de l'Amérique et de ce qu'elle a traversé soulève des questions qui sont véritablement universelles quand on observe le monde entier. Depuis 2 siècles et demi, les Américains se sont confrontés à de nombreuses questions profondes, des questions liées à la liberté. Ce pays est né de cette idée d'indépendance et de liberté, de questions sur le gouvernement et son fonctionnement, sur ce à quoi il devrait ressembler, de questions d'autorité, qui détient l'autorité, le roi face au peuple sur la véritable nature des droits, et sur la responsabilité individuelle par opposition à la responsabilité gouvernementale. De combien de libertés les gens devraient-ils disposer? D'où devrait provenir l'autorité? Quelle est l'autorité réellement nécessaire? Quelle responsabilité s'accompagne d'un plus grand nombre de droits? Une fois encore, ce sont là des questions qui ne sont pas proprement américaines, mais qui n'en sont pas moins véritablement américaines. J'oserais dire que les peuples du monde entier, les nations du monde entier, à des degrés divers, sont aux prises avec les mêmes questions. Qu'est-ce qui fait le succès d'une nation? Certains se demanderaient ou affirmeraient que les États-Unis ont réussi. De nos jours, selon la personne à qui vous posez la question, vous obtiendrez probablement des réponses très variées. Mais qu'est-ce qui fait le succès d'une nation? Est-ce la liberté seule, le simple fait d'être libre? Cela mène-t-il au succès? Est-ce l'autorité? En regardant les deux extrêmes, la liberté d'un côté, l'autorité de l'autre, est-ce cela qui, en fin de compte, fait le succès d'une nation? Eh bien, je dirais que ce n'est ni l'un ni l'autre de ces extrêmes. Ce n'est ni la liberté seule, ni l'autorité seule. La liberté sans autorité mène au chaos, à l'anarchie. Les gens font tout ce qui leur plaît, tout ce qu'ils veulent à tout moment, peu importe qui en subit les conséquences. C'est la liberté à l'état pur. Ainsi, la liberté sans autorité se transforme en chaos. Mais l'autorité sans liberté, c'est l'oppression. Il existe encore aujourd'hui des gouvernements oppressifs. Tout repose sur l'autorité. À moins de faire partie du cercle restreint, le peuple, qui se trouve en dehors de ce cercle, n'a aucune liberté et est opprimé. L'autorité sans liberté devient donc oppression. Une société saine a besoin à la fois de liberté et d'autorité. La liberté et l'autorité ne sont pas ennemies. Elles peuvent, et elles doivent, coexister. Mais cette notion d'autorité, parlons-en, cette notion d'autorité. Où apprend-on pour la première fois à se positionner correctement face à l'autorité? Est-ce quelque chose dont on est simplement, que l'on sait automatiquement dès la naissance? Eh bien, quiconque a été enfant et s'en souvient, ou dont les parents peuvent vous le dire, c'est que non, les enfants ne naissent pas automatiquement en sachant ce qu'est l'autorité. Alors, où apprend-on ce qu'est l'autorité? Où apprend-on ce concept pour la première fois? Est-ce à l'école? Est-ce peut-être en cours d'éducation civique, notamment lorsqu'on aborde le fonctionnement du gouvernement, qu'on apprend? Ah d'accord, donc en cours d'éducation civique, il y a un certain gouvernement et c'est de là que vient l'autorité. Est-ce à l'armée? Faut-il s'engager dans les forces armées pour enfin comprendre ce qu'est l'autorité et ce qu'elle signifie? Peut-être est-ce sur le lieu de travail, on commence à travailler et on se rend compte, attendre un peu, c'est la patronne qui commande, je dois arriver à l'heure, je dois m'assurer de faire ce qu'on me demande. Où les gens apprennent-ils l'autorité pour la première fois? Comment Dieu répondrait-il à cette question si nous la lui posions? La réponse de Dieu à cette question est très différente. Ouvrez vos Bibles au chapitre 5 du Deutéronome, le chapitre 5 du Deutéronome. Nous allons nous retrouver au cœur des 10 commandements. Chapitre 5 du Deutéronome, et nous allons nous retrouver en plein milieu des 10 commandements, au verset 16, « Honore ton père et ta mère, comme te l'a ordonné l'Éternel, ton Dieu, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Or, beaucoup d'entre vous, moi y compris, ont parfois tendance à considérer cela comme un commandement destiné aux enfants, en se disant, c'est un commandement pour les enfants. Je ne sais pas si nous remettons en cause sa portée, mais nous le considérons comme un commandement destiné aux enfants. Mais, mes frères, et si cela allait bien au-delà de cela? Et si ce commandement était en réalité une introduction à l'une des leçons les plus importantes qu'un être humain puisse apprendre? Le cinquième commandement. Et s'il était à la base de l'une des plus grandes leçons que Dieu ait à enseigner à l'humanité? Posons une autre question. Pourquoi Dieu a-t-il placé le cinquième commandement à cet endroit précis, en plein milieu? En plein milieu des 10 commandements. Remarquez qu'il s'agit d'un commandement lié aux relations humaines. Nous y reviendrons, mais, mes frères, nous allons répondre à ces questions et à bien d'autres encore. Nous allons aborder le cinquième commandement, et nous allons montrer comment il nous enseigne à honorer l'autorité et nous prépare à quelque chose de bien plus grand. Quelque chose de bien, bien plus grand. À la fin du message d'aujourd'hui, j'espère que vous verrez le cinquième commandement sous un angle beaucoup plus large, non pas simplement comme un commandement destiné aux enfants, mais comme l'une des leçons fondamentales de Dieu pour chaque chrétien. Il figure dans les 10 commandements. De toute évidence, il est important. Nous allons rester ici, dans le Deutéronome, mais nous allons en parler un peu plus et examiner où Dieu a placé ce commandement. Maintenant, si vous revenez en arrière, en restant ici dans le Deutéronome chapitre 5, vous recommencez au verset 7, Deutéronome 5, 7, c'est le premier commandement. Il dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Il poursuit en disant, « Tu ne te feras point d'image taillée, verset 8, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les profondeurs de la terre. » Le verset 9 dit de ne pas se prosterner devant ses idoles. Le verset 11 dit de ne pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Il est dit que Dieu ne tiendra pas pour innocent celui qui agit ainsi, en prenant son nom en vain. C'est manifestement quelque chose de très grave. Bien sûr, nous avons récemment entendu parler davantage du sabbat. Le quatrième commandement dit, « Observe le jour du sabbat pour le sanctifier, comme te l'a ordonné le Seigneur ton Dieu. » Nous voyons donc ces 4 premiers commandements. Ces commandements, comme beaucoup l'ont entendu et compris, sont très centrés sur Dieu. Dieu s'affirme dès le début. Il établit notre relation avec lui. Et ces 4 commandements constituent vraiment un excellent moyen de résumer tout cela. En particulier, dans le cadre de notre sujet d'aujourd'hui, il faut les considérer comme établissant l'autorité de Dieu. Dieu établit son autorité d'emblée, en nous indiquant qui nous devons adorer, lui, Dieu, comment l'adorer, comment vénérer son nom, et comment honorer le sabbat, un jour de repos, mais aussi un jour consacré à quoi? À la réflexion sur qui? sur Dieu et sur les choses de Dieu. Dieu commence donc les quatre premiers commandements en établissant son autorité d'emblée. Ainsi, une fois que Dieu a établi son autorité, quel est le commandement suivant? Pourquoi le commandement qui suit immédiatement concerne-t-il le père et la mère? Nous le verrons ici, il est dit, honore ton père et ta mère. Cela vient juste après les quatre premiers. Est-ce une coïncidence? Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est le premier commandement, ce cinquième commandement est le premier qui concerne les relations humaines. C'est aussi un commandement auquel est attachée une promesse. Si tu fais cela, je ferai ceci. Il est dit, afin que tes jours se prolongent, et que tout aille bien pour toi. Ainsi, tout ira bien si tu agis ainsi, si tu honores ton père et ta mère. Ce commandement se situe exactement entre nos responsabilités envers Dieu et, comme nous le verrons ici dans un instant, notre responsabilité envers l'humanité. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas commencé par « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne mentiras point ou tu ne convoiteras point » On pourrait se dire à propos de tous ces commandements, « D'accord, cela semble bien plus grave. Vous savez, on ne devrait pas aller tuer des gens ni les voler. Pourquoi ne pas commencer par là ?» Tout d'abord, on peut se demander pourquoi « Honore ton père et ta mère » figure même sur la liste. Pourquoi ne pas en faire le dixième commandement? Du genre, « Oh, au fait, n'oublie pas d'honorer ton père et ta mère. » Mes frères, nous devrions considérer le cinquième commandement comme un pont. Gardez cette image à l'esprit, un pont. À quoi sert un pont? Un pont relie deux choses. Nous devrions considérer le cinquième commandement comme un pont, quelque chose qui nous permet de passer du point A au point B. D'un côté du pont, ou de, oui, d'un côté du pont et d'un côté de la terre, se trouvent les quatre premiers commandements qui régissent notre relation avec Dieu, et de l'autre côté du pont se trouvent les commandements restants qui régissent nos relations les uns avec les autres, avec l'humanité. Dieu a placé le cinquième commandement au milieu, et ce n'est pas un hasard. Cette image du pont prendra, là encore, tout son sens au fur et à mesure que nous avancerons. Mais regardez le verset 17, « Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. » Verset 19, « Tu ne voleras point, tu ne mentiras point et tu ne porteras point de faux témoignages. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Tu ne convoiteras pas. Toutes ces choses régissent nos relations avec les autres. Et le cinquième commandement est la porte d'entrée, le pont qui nous y conduit. Il est fondamental. Nous devons comprendre cette autorité. Et j'ai commencé à parler de l'importance de la nation la plus puissante du monde et de ses idées sur lesquelles ce pays a été bâti. L'autorité est fondamentale. Si nous n'apprenons jamais à respecter l'autorité, il y a tant de choses dans la vie, y compris, je suppose, en restant fidèles aux 10 commandements, que nous ne comprendrons jamais vraiment. Nous ne comprenons pas comment interagir avec Dieu. Nous ne comprenons pas pleinement comment interagir correctement avec les autres. Si nous ne comprenons pas l'autorité, pourquoi respecterions-nous naturellement la vie d'autrui, ou respecterions-nous naturellement les biens d'autrui, ou les choses qui leur appartiennent, ou leurs propriétés? Pourquoi respecterions-nous leur réputation? Nous pourrions tout simplement mentir à leur sujet. Cela n'a aucune importance. Nous pourrions simplement leur prendre ce qu'ils possèdent. Cela n'a aucune importance. Il n'y a pas d'autorité. Nous pourrions convoiter ce qui ne nous appartient pas. Dieu aborde et commence par l'importance de notre compréhension de l'autorité pour une raison bien précise. C'est fondamental. Prenons l'exemple d'une maison. On ne commence pas à construire le toit en commençant par le toit. En réfléchissant à cette illustration, je m'amusais à imaginer dans ma tête à quoi cela ressemblerait si quelqu'un commençait par construire le toit. Bon, tout se passe bien. Vous construisez le toit. Ça a l'air bien. Vous en avez la forme. Vous avez les tuiles et tout le reste. Puis vous vous dites, oh oh, comment allons-nous faire pour soulever cette chose en l'air afin de commencer à construire les murs? Comment allons-nous faire pour que cette structure reste suffisamment stable pour que nous puissions enfoncer les montants latéraux, les murs et tout ce qui va lui permettre de se dresser bien haut? Et cela ne tient même pas compte de la question de savoir comment nous allons finalement pouvoir poser des fondations sous cette maison, cette structure qui, à ce stade, si vous avez réussi à mettre le toit en place et à construire les murs, serait très, très lourde, ce qui rendrait la tâche très, très difficile. Vous comprenez l'analogie. Les fondations, c'est par là qu'on commence. En matière de relations humaines, l'autorité et la compréhension de l'autorité constituent le fondement. Nous devons avoir du respect pour l'autorité légitime. Cela nous ramène à la question, où Dieu veut-il que nous apprenions cette leçon? Je dirais quand, mais où Dieu veut-il que nous l'apprenions? Vous direz probablement, eh bien, d'après ce que vous avez dit jusqu'à présent, s'il s'agit d'un commandement destiné aux enfants, de quelque chose qu'un enfant apprend, Dieu s'attend à ce que nous l'apprenions au sein de la famille. Nous devons apprendre l'autorité au sein de la famille, et c'est vrai. Dieu ne s'attend pas à ce que nous découvrions l'autorité pour la première fois à l'école. C'est trop tard, ou pratiquement trop tard. Nous en avons vu les conséquences. Si vous observez le système éducatif, le système scolaire, de nombreux enseignants, il y en a parmi notre public, il y en a partout dans le monde, constatent de leurs propres yeux ce qui se passe lorsque les enfants n'apprennent pas l'autorité à la maison, et ils essaient désormais d'enseigner cette autorité à l'école. Beaucoup d'enseignants vous diraient qu'il est trop tard. Les employeurs le constatent sur le lieu de travail. Si l'on attend des employés qu'ils s'adaptent, de nombreux articles de presse, de plus en plus nombreux chaque jour, paraissent et affirment, vous savez quoi? Cette génération n'est pas faite pour le monde du travail. Elle n'est pas prête pour le monde du travail. En substance, ce qui se passe, c'est que les employeurs se rendent compte qu'ils doivent enseigner l'autorité sur le lieu de travail parce que les enfants ne l'ont pas apprise à la maison, et que, d'une manière ou d'une autre, ils ont terminé leur scolarité sans l'avoir apprise à l'école, ce qui engendre des difficultés et des défis sur le lieu de travail. Ces employés ne connaissent ni ne comprennent l'autorité. Ainsi, selon la voie de Dieu, la bonne voie, l'autorité doit s'apprendre à la maison, dès le début, comme fondement. Ouvrez votre Bible au chapitre 20 de l'Exode. Dieu commence à enseigner l'autorité au sein du foyer. Chapitre 20 de l'Exode. J'ai simplement pensé apporter un peu de variété et me reporter à l'autre passage des Écritures qui énumère les 10 commandements. Il est intéressant de noter que Dieu les a placés à deux endroits différents, offrant ainsi une perspective légèrement différente. Dans le chapitre 20 de l'Exode, verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » La structure est donc pratiquement la même, la formulation est légèrement différente, mais il est dit que tes jours se prolongeront sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Frères et sœurs, c'est bien plus qu'un simple commandement destiné aux enfants. Pensez simplement à l'auditoire. Si l'on considère à qui s'adressait ce passage, Peut-on en conclure qu'il ne s'adressait qu'aux enfants? Évidemment non. Il y avait là des adultes, des jeunes adultes, des personnes âgées, et devinez quoi? Dans bien des cas, leur mère et leur père étaient encore en vie. L'enseignement de Dieu sur l'autorité humaine s'appliquait donc à tous les membres de l'auditoire. Mais revenons aux enfants, cette idée d'honorer son père et sa mère est importante car c'est le premier commandement, hormis celui de reconnaître Dieu et de lui soumettre son autorité, qui commence véritablement à aider un enfant à comprendre, au plus profond de lui-même, que le monde ne tourne pas autour de lui. Comment un enfant pourrait-il savoir autrement, lorsqu'il vient au monde, et surtout compte tenu de son impuissance et de la présence de personnes prêtes à l'aider, que c'est ce premier commandement qui commence véritablement à lui faire comprendre que le monde ne tourne pas autour de lui en tant qu'enfant, en tant qu'individu? Le foyer est le premier endroit où un enfant entend pour la première fois le mot « non », du moins il devrait l'entendre, ou « attends », ou « viens par ici », ou « fais ceci », « ne fais pas cela ». Dis que tu es désolé. Combien de fois avons-nous entendu cela? Dis que tu es désolé à ton frère, dis que tu es désolé à ta sœur. Je ne veux pas le dire. Ou encore, tu vas avoir encore plus d'ennui si tu ne dis pas pardon. Pardon. Dis-le comme si tu le pensais vraiment. Je veux dire, on peut tous se remémorer ces moments. Où entend-on parler de partage à la maison? Partagez entre vous. Dites la vérité. Range cela. Respectez votre mère. Écoutez votre père. Ce sont toutes des choses que nous avons apprises quand nous étions enfants, et elles commencent, au fond, à montrer aux enfants que le monde ne tourne pas autour d'eux. Et à travers cela, à travers ces consignes, à travers ces restrictions, les enfants apprennent ce qu'est l'autorité, l'importance de l'autorité. Et ce n'est pas quelque chose de naturel. Mes frères, je n'ai pas, quand j'étais enfant, je ne pensais pas naturellement de cette façon. Je voulais faire ce que j'avais envie de faire. Je veux jouer avec mes jouets quand j'en ai envie. Je veux les laisser exactement là où je les ai laissés et revenir quand je veux pour jouer avec. Ils sont exactement là où je les ai laissés. Je veux manger des bonbons. Je ne veux pas manger de légumes. Pourquoi devrais-je avoir un couvre-feu? Je devrais pouvoir rentrer quand je veux, à mesure que l'on grandit. Mais ce que Dieu veut dire, c'est « Non, honore ton père et ta mère. » Écoute ton père et ta mère. Ils ont l'autorité. Et lorsque nous agissons selon la volonté de Dieu, c'est une leçon que nous apprenons dès notre plus jeune âge. Dieu aurait pu commencer par dire, « Tu apprends ce qu'est l'autorité par un juge, ou peut-être par un prêtre, un pasteur ou un employeur. » Mais, mes frères, au moment où nous atteignons ces niveaux dans la vie, bon nombre de nos habitudes, bon nombre de choses qui, notre façon de faire les choses, sont déjà bien ancrées. Certains diront qu'il est trop tard. Et à moins que vous n'entriez dans l'Église et que Dieu ne vous donne son esprit, que vous appreniez à vous soumettre à l'autorité et que vous puissiez changer, surtout si vous n'avez pas été élevé ainsi, il est souvent trop tard. Et c'est vraiment là le cœur du problème de ce qui se passe dans la société. Ouvrez vos Bibles au chapitre 6 de l'Éphésiens, chapitre 6 de l'Éphésiens. Notre premier contact avec l'autorité se fait par l'intermédiaire de nos parents, ou du moins cela devrait être le cas, chapitre 6 de l'Éphésiens, verset 1. Chapitre 6 de l'Éphésiens, verset 1. Chapitre 6 de l'Éphésiens, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Beaucoup d'entre vous ici présents sont des enfants, vous avez des parents, vous vivez chez vos parents. Comprenez bien ce que cela signifie, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est juste. C'est la bonne chose à faire. Enfants, vous qui m'écoutez, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Vos parents vous disent de faire ce qui est juste, ce que Dieu voudrait que vous fassiez, ou du moins ce qui n'est pas contraire à ce que Dieu voudrait que vous fassiez. Faites-le parce que c'est juste. Évidemment, chers parents, votre devoir, notre devoir en tant que parents, est de leur indiquer ce qu'il convient de faire dans le Seigneur. Mais c'est la bonne chose à faire. Et pour continuer, honore ton père et ta mère, cela vous semble familier, ce qui est le premier commandement accompagné d'une promesse. Vous vous en souvenez? Vous pourriez avoir une longue vie. Vos jours pourraient être prolongés. Je crois que c'est ce qui est dit dans le Deutéronome, afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, les parents ont une responsabilité, mais élevez-les dans la discipline et les exhortations du Seigneur. C'est une insistance continue sur le fait d'élever nos enfants dans ce que Dieu veut qu'ils fassent et qu'il veut que nous fassions. Il y a une exigence de part et d'autre. Mais voyez-vous, Paul répète ou cite le cinquième commandement. S'il y avait le moindre doute quant à l'importance des 10 commandements, il ne devrait pas y en avoir. Il cite le cinquième commandement presque mot pour mot. Mais il ne s'est pas contenté de le répéter, il l'a expliqué. Les enfants apprennent l'obéissance. Les pères doivent exercer une autorité appropriée sur leur foyer, et il y a des conséquences à ne pas le faire et à le faire. Une autorité saine, chers parents, une autorité saine implique une responsabilité. Nous devons faire preuve de responsabilité dans l'exercice de cette autorité, et non pas exercer l'autorité pour l'autorité elle-même. C'est une affaire sérieuse, en particulier lorsque cette autorité est donnée par Dieu. Parents, votre autorité vous est donnée par Dieu. Enfants, l'autorité de vos parents vous est donnée par Dieu. Les parents sont, en ce sens, des agents de Dieu. Nous sommes des représentants de Dieu. Comment exerçons-nous notre autorité? Enfants, remarquez que je ne parle pas d'âge. Si vous avez un parent, vous êtes un enfant. Comment réagissons-nous face à l'autorité de nos parents? Évidemment, à mesure que vous grandissez, les choses changent, les circonstances évoluent, mais il faut toujours reconnaître l'autorité parentale et, bien sûr, honorer nos parents dans le Seigneur, lorsqu'ils nous indiquent ce qu'il faut faire selon Dieu, ou ce que Dieu veut que nous fassions. Mais cela nous amène vraiment à comprendre pourquoi le cinquième commandement est un commandement accompagné d'une promesse. On ne cesse de remarquer cette insistance. Il ne s'agit pas simplement d'autorité et de soumission pour le principe. C'est pour que nos jours soient prolongés. Quand on y réfléchit, lorsque les enfants honorent leurs parents et adoptent cette attitude, tu sais quoi? Je vais honorer ma mère. Je vais honorer mon père, même quand c'est difficile, même si j'ai peut-être envie de suivre une autre voie ou de faire autre chose. Lorsque les enfants agissent ainsi, en général, la vie a tendance à bien se passer. Si les parents indiquent à leurs enfants ce qu'il convient de faire, mange tes légumes, va te coucher à l'heure, pose ton téléphone, va te coucher, assure-toi d'être de retour à la maison à telle heure, va à l'école, sois à l'heure, fais tes devoirs, ne mens pas. Lorsque les enfants font ces choses, que les parents leur demandent de les faire et que les enfants les écoutent, la vie a tendance à bien se passer. Même si c'est un défi, la vie a tendance à bien se passer. Mais lorsque les enfants rejettent l'autorité de leurs parents, lorsqu'ils font fi de ce que leurs parents leur demandent de faire, la vie devient beaucoup plus difficile. Vous devez alors composer avec maman et papa, qui ne sont pas contents que vous ayez décidé de ne pas faire ce qu'ils vous ont demandé. Vous devez faire face aux problèmes, aux difficultés ou aux conséquences qui découlent du fait de ne pas avoir obéi. La vie devient beaucoup plus difficile lorsque les enfants font fi de l'autorité. Dieu a intégré la loi de cause à effet dans la loi, et c'est là tout l'enjeu. Il dit, « Si tu honores ton père et ta mère, fais-le afin que tes jours soient prolongés. » Comme l'a dit Paul, « afin que tout aille bien pour toi. » Frères et sœurs, nous avons insisté sur ce concept, ce principe, ce commandement sans équivoque selon lequel nous devons obéir à nos parents dans le Seigneur. Et aucun d'entre nous, bien sûr, ne serait en désaccord avec cela, surtout si nous sommes chrétiens, si nous nous efforçons de vivre selon la voie de Dieu et de faire ce que Dieu attend de nous. Mais comme pour tant de choses dans la Bible, il y a le fait de la lire, de la comprendre, d'être disposé à la mettre en pratique, mais qu'en est-il dans la réalité? La vie est compliquée. Les relations sont compliquées. Les circonstances ne sont pas toujours idéales. J'ai évoqué le fait que les situations familiales varient considérablement d'une personne à l'autre. Le dessein de Dieu est immuable. Il fonctionne. Cela a été prouvé. Mais que se passe-t-il lorsque nos vies ne correspondent pas toujours au dessein de Dieu? Certains, même ici à l'Église, ont des enfants qui vivent à la maison et dont l'un des parents est membre de l'Église tandis que l'autre ne l'est pas, et ce parent qui n'est pas membre de l'Église peut se montrer hostile. Il peut vous donner des consignes, à vous qui êtes un enfant vivant sous l'autorité de vos parents et dans le foyer familial, et vous pousser à faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que Dieu voudrait que vous fassiez. Que faire dans ce cas? Eh bien, si tu regardes ce que Dieu te dit de faire, il te dit d'obéir à tes parents dans le Seigneur. Ainsi, d'emblée, Dieu nous dit, l'autorité que je confère aux parents, et pour laquelle je te demande de les honorer et de leur obéir, porte sur les choses que je veux que tu fasses, que je veux que tu accomplisses, et que je leur ordonne par l'intermédiaire de tes parents. Dieu vous dit donc automatiquement que si un parent vous demande de faire quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'il voudrait que vous fassiez, vous avez le choix. Écoutez-moi bien. Eh bien, que vous demande ce parent de faire? Si l'un de tes parents est membre de l'Église, disons que ta mère l'est, mais pas ton père, ta mère comprend, d'accord, on va à la fête, tandis que ton père dit, eh bien non, tu n'iras pas à la fête, que fais-tu? Eh bien, c'est l'occasion pour toi de t'assurer que tu suis ce que maman te demande de faire, que tu fais ce que ta maman voudrait que tu fasses. Oui, papa te dit de faire une chose, mais ce qu'il te dit de faire n'est pas conforme à la volonté du Seigneur. Ce que maman te dit de faire, en revanche, est conforme à la volonté du Seigneur. Alors bien sûr, tu vas écouter ce que maman te demande de faire. Ce n'est qu'un exemple. L'essentiel, c'est l'autorité des parents, et l'honneur qui en découle vient de Dieu. Maintenant, cela ne signifie pas, et c'est compliqué que dans cette situation, avec tes parents, et ta mère en l'occurrence, tu dois appliquer cela à tout prix. C'est là que tu dois demander conseil. C'est là que tu dois demander conseil. Si tu te trouves dans une situation où ton conjoint est hostile, qu'il essaie d'amener tes enfants à faire une chose, alors que tu veux qu'ils en fassent une autre, tu dois demander conseil et trouver une solution à ce problème. En fin de compte, la norme de Dieu est claire, c'est de lui obéir et de faire ce qu'il attend de toi. Mais tu dois demander conseil et prier Dieu de t'aider à gérer cette situation. Mais cette attitude et cette approche ne changent rien au fait que vos parents doivent être honorés. Cela ne signifie pas, en tant qu'enfant, que vous manquez de respect à votre père. Vous êtes très respectueux, mais vous dites, « Monsieur, ce n'est pas ce que Dieu voudrait que je fasse. Je veux aller à la fête. Je veux y être. » Tenez bon de manière respectueuse. Faites ce qui est juste. Tenez-vous-en à ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous seriez surpris de voir comment Dieu peut faire changer les mentalités, ouvrir des portes et vous aider à surmonter cette situation. En aucun cas tu ne dois manquer de respect, parler sans réfléchir ou quoi que ce soit de ce genre. Garde le ton qu'il faut, mais reste sur tes positions. Dis, tu sais quoi? Dieu veut que je fasse cela. Je veux le faire. Tu serais surpris. Tu serais surpris. Et quand on est adulte? Bien sûr, tu ne vis plus chez tes parents. Dois-tu les honorer? Oui. Oui. Jean et moi-même fait l'expérience de manière très concrète, à un niveau très viscéral. À un moment donné de ma vie, j'ai eu des difficultés avec l'un de mes parents. J'avais du mal à accepter cette idée, et notre relation en était arrivée à un point où nous devions simplement gérer certaines choses. La situation était devenue, je dirais, assez toxique. Je me suis retrouvé confronté à cette idée d'honorer mon père et ma mère, ainsi qu'à ce commandement accompagné d'une promesse. Je voulais que mes jours soient longs, et je voulais obéir à Dieu et accomplir tout ce qu'il attendait de moi. Et je me suis rendu compte que ma conception de l'honneur que je devais leur rendre était tout simplement très confuse. Mon attitude n'était pas des meilleures, et notre relation ne faisait que se détériorer. L'un des meilleurs conseils que j'ai reçus, et j'avais cherché conseil à ce sujet, l'un des meilleurs conseils que j'ai reçus, c'était de comprendre que parfois, la meilleure façon d'honorer ses parents est de prendre ses distances avec eux. Je dis cela en tant qu'adulte et en tant que personne qui, à ce moment-là, avait une famille, menait sa propre vie et prenait ses propres décisions, mais ma relation avec mes parents traversait une période difficile. Avec l'un de mes parents en particulier, les choses avaient vraiment mal tourné. J'ai découvert, grâce aux conseils que j'ai reçus et qui ont vraiment fonctionné, que je devais prendre mes distances. Je ne pouvais plus avoir autant de contact avec ce parent-là pendant un certain temps, jusqu'à ce que nous puissions régler nos problèmes. Le fait est que j'ai pu préserver l'honneur sans avoir à subir de maltraitance, de violence verbale, ni à lutter contre les décisions et les voies de Dieu, ni contre ce que je souhaitais faire en obéissant à Dieu. Il a fallu cette prise de distance et la prise de conscience que l'honneur ne doit pas nécessairement aller de pair avec l'accord. Ce parent avait une certaine vision de la façon dont il voulait que je mène ma vie. Je voulais vivre à ma façon, mener une vie différente et donner une autre orientation à mon existence. J'avais le sentiment d'en avoir tout à fait le droit, et c'est ce que j'ai fait. Je suis adulte. Mais cela ne signifiait pas pour autant que je ne pouvais pas et ne devais pas les honorer et faire ce qu'ils attendaient de moi. Mes frères et sœurs, comprenez, que vous soyez adultes ou enfants, l'importance d'honorer et d'obéir à vos parents dans le Seigneur, et comprenez que c'est Dieu qui crée et établit cette autorité, et qui la confère aux parents par son intermédiaire, et vivez selon son mode de vie. Vous avez quelque chose à gagner à honorer vos parents, et c'est une promesse concrète. Nous parlons souvent de choses futures et spirituelles, et c'est bien, mais ce sont là des promesses concrètes. Ce sont des choses dont nous pouvons bénéficier dès aujourd'hui, dont nous avons bénéficié et dont nous continuons de bénéficier. À ce stade, peut-être que beaucoup d'entre vous pensent à cela. Et j'en ai tenu compte en préparant ce message. Je me suis concentré sur l'honneur et sur le fait d'honorer votre père et votre mère. Vous pourriez dire, mais que faire si mon père et ma mère ne sont pas dignes d'honneur? Peut-être que certains d'entre vous, voire beaucoup d'entre vous, moi y compris, n'ont pas grandi avec des parents pratiquants. Ma situation familiale était en réalité assez difficile. Beaucoup d'entre vous peuvent en dire autant. Je vais vous dire ceci, utilisez cette expression, Je suis victime d'un divorce. Mes parents ont divorcé quand j'étais très, très jeune. Je ne m'en souviens même pas. J'ai passé mes années de formation entre deux foyers. J'étais l'enfant qui faisait des allers-retours et qui déménageait sans cesse. Encore une fois, je ne dis pas que vous avez tous vécu cela. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup d'entre vous ont vécu la même chose. Je vous dis d'honorer votre père et votre mère, et vos jours seront prolongés. Certains d'entre vous diront peut-être, eh bien, ce n'est pas mon histoire. Je n'ai pas grandi dans un foyer aimant ou stable, ou encore, c'était peut-être stable à telle période de mon enfance, mais pas à telle autre. Beaucoup d'entre vous, comme je l'ai dit, ont vécu un divorce, peut-être qu'un de vos parents est décédé quand vous étiez jeune, ou même plus tard. Il n'était pas là. Vous viviez dans une famille monoparentale. Peut-être avez-vous même été victime de maltraitance. Vos parents vous ont maltraité. Ces expériences, mes frères et sœurs, sont bien réelles, et je ne cherche pas à les minimiser. Je ne dis pas que c'est une réalité. Elle nous affecte profondément, et comme nous allons le voir, c'est justement là le cœur du sujet. Ces choses nous affectent profondément, mais voici ce que je veux que vous compreniez. Cela n'a pas changé le dessein de Dieu en ce qui concerne l'honneur dû à notre père et à notre mère. Le dessein est établi. Le dessein fonctionne. Dieu a mis ce dessein en place pour qu'il fonctionne, mais le péché existe. Les gens s'écartent du dessein de Dieu, et nous en subissons les conséquences, mais ce n'est pas parce que les gens s'en écartent que ce dessein ne fonctionne pas. Je vais le répéter. Ce n'est pas parce que les gens s'écartent de ce que Dieu a prévu que le dessein de Dieu ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce que les parents de Johnny ont divorcé que je ne dois pas honorer mon père et ma mère. L'un n'a rien à voir avec l'autre. Le dessein fonctionne. Le dessein de Dieu a fait ses preuves. Sa conception nous enseigne les leçons que nous devons retenir. Quelle est cette conception? Dieu a conçu la famille pour qu'elle soit la première salle de classe où l'on apprend l'autorité. Ce n'est pas nécessairement la seule salle de classe. Rappelez-vous, les élèves vont à l'école, mais que se passe-t-il ensuite? Ils finissent par obtenir leur diplôme, puis ils partent et mènent leur vie. Ce n'est pas la seule salle de classe, mais c'est la première. Encore une fois, ce pont revêt une grande importance. Il relie les deux parties des dix commandements, l'autorité de Dieu, et la manière dont nous devons aborder et comprendre Dieu. L'autre aspect concerne la façon de travailler, de vivre et de coexister avec nos semblables. Ce pont, si vous y prêtez attention, relie également l'enfance à l'âge adulte. Peu d'enfants seront accusés de meurtre, d'adultère ou d'avoir convoité la femme de leur prochain. Ils pourraient convoiter leur Lego, peut-être, ou leur petite voiture Hot Wheels, ou leur poupée de Barbie, ou quoi que ce soit d'autre. Cela arrive, mais ce cinquième commandement est un pont entre l'enfance et l'âge adulte. Il nous prépare les enfants à savoir comment coexister et vivre avec les autres. C'est une leçon que nous apprenons au sein de la famille. Elle nous prépare à connaître et à comprendre l'autorité dans tous les domaines. L'autorité de la parole de Dieu, l'autorité de l'Église de Dieu, l'autorité du Saint-Esprit, l'autorité qui est placée dans nos vies. Frères et sœurs, ce pont est très, très important. Ouvrez vos Bibles à Jean 10, le chapitre 10 de Jean. Ma mission, mon objectif, et d'approfondir le cinquième commandement et les leçons qu'il enseigne. Mon objectif est d'élargir votre réflexion. Jean 10, verset 10. Christ dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Qui est le voleur? Qui est le voleur? Satan est le voleur. Satan comprend l'importance du dessein de Dieu. C'est un être brillant. Il est fou. Il ne comprend pas, et je crois que Dieu lui permet, et je sais que Dieu lui permet, d'agir dans une certaine mesure. Mais Satan comprend l'importance du dessein de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, il comprend l'importance de l'autorité et de la famille, ainsi que le fait que les enfants, en grandissant, apprennent ces choses au sein du foyer. Alors, que fait-il? Il s'attaque au mariage. Il s'attaque à la famille, et c'est implacable, mes frères et sœurs. C'est intégré dans la publicité, dans les réseaux sociaux, et dans tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons. Tout autour de nous, il règne une grande confusion au sujet du mariage. Des hommes qui épousent des hommes, des femmes qui épousent des femmes, des gens qui ne se marient pas du tout. Une confusion quant à l'éducation des enfants. Il n'est jamais juste de frapper un enfant. Ou à l'autre extrême, des parents qui battent leurs enfants à mort. La confusion règne sur les rôles de genre, qui sont fluides. Il n'y a plus de discipline. Qui est aux commandes? On laisse l'enfant découvrir par lui-même ce qu'il veut faire de sa vie. La confusion règne même sur ce qu'est une famille. Mes frères, ce n'est pas une coïncidence. C'est une attaque contre ce pont central, contre ce commandement central, celui qui se trouve en plein cœur du « Honore ton père et ta mère ». Ces choses que j'ai mentionnées, la confusion et les difficultés concernant l'éducation des enfants, le mariage, les rôles de genre et la discipline au sein du foyer, constituent une attaque contre le cinquième commandement. Satan sait exactement ce qu'il fait. Il sait que l'environnement familial, le foyer, est la salle de classe où les enfants apprennent l'honneur, où ils apprennent l'autorité. Son but est de saper cela, de briser cela, de semer la confusion à ce sujet, et finalement, selon Jean 10, de le détruire. Que vient-il faire? Voler, tuer et détruire. C'est dans sa nature. C'est ce qu'il fait. Satan comprend, et je veux que vous compreniez tous, que la façon dont nous percevons nos parents façonne notre perception de Dieu. Cela devrait, selon le dessein de Dieu, être positif. Ce le sera certainement à l'avenir. Au fur et à mesure que le royaume se déploie par étapes, ce sont là les choses que nous allons enseigner à la société, aux parents et aux enfants. Mais le dessein de Dieu est que nous apprenions les voies de Dieu à travers la façon dont nous percevons nos parents, notre père et notre mère, la discipline de papa, l'éducation de maman. Papa doit aussi faire preuve de discipline, ou plutôt, pardon, d'éducation lui aussi. Maman doit aussi faire preuve de discipline, mais tous les deux ensemble, en travaillant main dans la main, ils nous aident à comprendre comment nous devrions, en tant qu'enfants, percevoir Dieu, et bien sûr comment nous devons interagir, vivre et coexister avec les autres. Que vous ayez eu une éducation exceptionnelle, je suis sûr que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, ou très difficile, dans tous les cas, vous devez encore vous poser la question suivante, qu'est-ce que Dieu m'enseigne sur l'honneur et l'autorité à travers ce cinquième commandement, et que devons-nous en retenir aujourd'hui? Et jusqu'à présent, nous devrions comprendre que la famille, l'autorité et l'honneur trouvent leur source au sein du foyer. C'est le fondement. Mais ce n'est pas là que Dieu s'attendait à ce que cela s'arrête. Une fois que nous grandissons et que nous avançons dans la vie, on se dit, bon, fini l'autorité, on s'en fiche. Je peux faire tout ce que je veux maintenant. On peut ressentir cela. On quitte le nid familial, et on se dit, oh, je peux faire tout ce que je veux maintenant, youpi. Pas tout à fait, pas tout à fait. Loin de là, loin de là. Dieu nous enseigne la leçon de l'autorité tout au long de la vie. Nous l'apprenons simplement au sein de la famille. Alors, mes frères et sœurs, nous devons apprendre à vivre sous l'autorité. Monsieur Herbert Armstrong, il y a une citation célèbre. Quand je la citerai, vous comprendrez exactement ce que je veux dire. Vous l'avez déjà entendu. Monsieur Armstrong a dit, « Le gouvernement, c'est tout. Le gouvernement, c'est tout. » C'est une affirmation profonde dans sa simplicité, mais elle est vraie. Sans autorité, sans gouvernement, les familles ne peuvent pas fonctionner, les entreprises ne peuvent pas fonctionner, les écoles ne peuvent pas fonctionner, une église, même les églises de ce monde, ne peut pas fonctionner sans autorité. Une nation ne peut pas fonctionner, et mes frères, en fin de compte, le royaume de Dieu ne peut pas fonctionner sans autorité. Dieu veut que nous comprenions l'importance de l'autorité, c'est très important. Romains chapitre 13. La nature humaine n'aime pas naturellement être soumise à l'autorité. Romains chapitre 13, verset 1. Romains chapitre 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Ainsi, toute autorité, mes frères, en fin de compte, si l'on remonte à sa source ultime, c'est Dieu, qu'il soit directement ou indirectement impliqué. Mais la source, c'est Dieu. Les autorités qui existent sont établies par Dieu. Vous voyez le mot « établi » là, et vous pensez « oh, le ministère ». Eh bien, je ne vois rien là-dedans qui le limite à cela. Il est dit qu'il n'y a d'autorité que de Dieu. Les autorités qui existent, donc toutes les autorités qui existent, sont établies par Dieu. Quiconque donc, cela pose donc le fondement en affirmant que Dieu est derrière tout cela, quiconque donc s'oppose à l'autorité, s'oppose à l'ordonnance de Dieu, et ceux qui s'y opposent s'attireront la condamnation. Ouah. Bon sang, il y a beaucoup de gens dans notre société moderne qui auraient tout intérêt à comprendre ce que je viens de lire. Le gouvernement civil n'est pas une idée de l'homme. Qu'il s'agisse de la police, de l'armée, des maires, des gouverneurs ou des présidents. Le gouvernement est une idée de Dieu, pas une idée de l'homme. Dieu permet l'existence des gouvernements humains, même imparfaits. Il permet ces gouvernements dans quel but? Pour préserver l'ordre. Regardez autour de vous dans le monde. Les gouvernements qui ne maintiennent pas l'ordre posent un problème. Les citoyens ne veulent pas y vivre. Remarquez qu'il y a une tendance qui se répand actuellement, beaucoup d'entre vous l'ont sans doute déjà vu ou entendu, aux États-Unis, où se déroule la Coupe du Monde, des personnes venues d'autres pays déclarent « Oh là là, c'est merveilleux ! Les États-Unis sont formidables. Ce n'est pas du tout comme je l'imaginais. C'est très différent. On aime cela. On ne veut plus repartir. Ce qu'ils vivent, c'est l'ordre qui découle de la vie sous un gouvernement civil. Un gouvernement imparfait, sans aucun doute. Ce n'est pas le royaume, mais c'est néanmoins un gouvernement. Sans gouvernement, je l'ai déjà dit, sans gouvernement, la société sombre rapidement dans le chaos. Mais, mes frères, quand nous examinons nos vies, celles-ci devraient respecter et refléter l'ordre que je décris. Nous devons être des citoyens respectueux, quel que soit le pays dans lequel nous vivons. Nous devons respecter la loi. Nous devons faire preuve de coopération. Nous devons nous comporter avec honneur. Si nous sommes contrôlés par la police, nous ne devons pas opposer de résistance. Si vous recevez une contravention pour excès de vitesse, vous roulez trop vite, Vous avez été arrêté, coopérez. Faites ce qu'on vous demande. Face à une autorité gouvernementale, j'ai mentionné la police, mais aussi le monde politique, avec lequel vous êtes en contact, ou même au travail, face à votre patron, au PDG, au vice-président ou à toute autre personne avec laquelle vous êtes en contact, soyez respectueux. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec leurs décisions, mais restez respectueux. Premier épître de Pierre, chapitre 2, premier épître de Pierre, chapitre 2. Beaucoup sont surpris de voir que la Bible parle ainsi des autorités civiles. Il ne s'agit pas seulement d'obéir à Dieu, ce que je viens de lire est d'ailleurs une forme d'obéissance à Dieu, mais aussi de se soumettre à l'autorité. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 13. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 13. Soumettez-vous à toute autorité humaine, à cause du Seigneur. On constate sans cesse ce lien entre les autorités, les gouvernements civils et Dieu. Rappelez-vous, nous parlons ici d'apprendre à reconnaître l'autorité et à vivre sous son emprise dans votre vie, que ce soit envers le roi, en tant qu'autorité suprême, ou envers les gouverneurs, en tant qu'envoyé de celui-ci pour punir ceux qui font le mal, et si vous n'agissez pas correctement, vous devriez vous préoccuper du gouvernement et des sanctions qui accompagnent l'application de la loi, et pour louer ceux qui font le bien, car telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes insensés, en tant que personne libre, et sans utiliser votre liberté comme un prétexte pour la méchanceté. Frères et sœurs, encore une fois, nous devons respecter la loi simplement parce que nous sommes chrétiens et que nous comprenons le gouvernement de Dieu, et nous savons qu'un jour nous serons appelés à régner. Nous devons néanmoins obéir à Dieu. Nous ne pouvons pas simplement griller les feux rouges, ne pas payer nos impôts et faire tout ce qui nous passe par la tête, non pas comme un prétexte à la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorez tous les hommes, aimez la fraternité, craignez Dieu, honorez le roi. Ce sont donc des commandements. Ce sont des choses qui nous sont demandées. Et remarquez ceci, la progression va ainsi. Soumettez-vous, honorez tous les hommes, aimez la fraternité, craignez Dieu, honorez le roi, toutes les étapes de l'autorité. Et Pierre, lui, a fait le lien. Son message était le suivant, respectez et honorez Dieu, respectez et honorez l'autorité humaine. Il l'a exposé mot pour mot. Nous devons comprendre, et cela est dit explicitement ici, l'importance des gouvernements humains, des forces de l'ordre et de tout ce qui assure la stabilité d'une société. Lorsque le respect disparaît, mes frères, diriger devient pratiquement impossible. L'autorité n'est pas seulement une fonction. Il faut, elle exige le respect. Il faut être respecté. Matthieu 17. Matthieu 17. L'honneur ne signifie pas toujours l'accord. Vous n'êtes peut-être pas toujours d'accord avec la manière dont une personne en charge s'y prend, mais que faites-vous à ce sujet? Peut-être agiriez-vous différemment, mais l'honneur passe-t-il à la trappe simplement parce que vous procédez autrement? Matthieu 17, Matthieu 17. Regardons l'exemple du Christ ici. Matthieu 17. Verset 24. Matthieu 17, 24. Et quand ils furent arrivés à Capharnaüm, ceux qui percevaient l'impôt vinrent vers Pierre et lui dirent, « Votre maître paye-t-il l'impôt ?» Une fois de plus, ils essayaient de mettre Christ à l'épreuve, et ils comprenaient où en étaient ses revendications à ce moment-là. Donc, « Votre maître paye-t-il l'impôt ?» Ils essayaient de le piéger. Et au verset 25, il répondit, « Oui. » Et comme il entrait dans la maison, Jésus l'interpella en disant, « Qu'en penses-tu, Simon ? » De qui les rois de la terre perçoivent-ils les droits ou l'impôt? De leurs propres enfants ou des étrangers? Pierre lui répondit, des étrangers. Jésus lui dit, alors les enfants en sont exempts. Néanmoins, afin de ne pas les scandaliser. Ainsi, même si je comprends la situation dans son ensemble, Pierre, mes frères, même si nous comprenons la situation dans son ensemble, nous comprenons ce que Dieu est en train de faire. Nous comprenons que ces gouvernements, les gouvernements de ce monde, ne sont pas purs, qu'ils sont corrompus, qu'ils ont leurs difficultés et leurs problèmes. Néanmoins, verset 27, afin de ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, prends le premier poisson qui mordra, et quand tu auras ouvert sa bouche, tu y trouveras une pièce d'argent. Prends-la et donne-la leur pour moi et pour toi. Malgré notre désaccord, malgré le fait que nous agirions peut-être différemment, dans ce cas précis, Christ a dit que nous agirions certainement différemment. Il faut néanmoins obéir à la loi. Payez l'impôt pour moi. C'est Dieu qui se manifeste dans la chair. Il se soumet à l'autorité. Il n'a pas simplement dit, allez le payer pour vous. Il a dit, payez-le pour moi et pour vous. C'est puissant, vraiment puissant. Christ avait tout à fait le droit de ne pas payer cet impôt du temple. Je suis le Dieu de l'univers. Je ne paierai rien. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a respecté l'ordre établi et évité toute offense inutile. Frères et sœurs, nous devrions faire de même. Matthieu, chapitre 8. Pour rester dans l'évangile selon Matthieu, Christ n'a jamais encouragé la rébellion. On entend souvent dire aujourd'hui, « Oh, Christ était un rebelle, il a fait ceci, il a fait cela. » Parlez-vous des pharisiens, des sadducéens et de l'ordre religieux? Certes, ils n'agissaient pas comme eux, mais ils n'étaient pas un rebelle. Il n'est pas un rebelle au sens traditionnel du terme. Matthieu 8, verset 5. Matthieu 8, verset 5. Et lorsque Jésus entra à Capharnaüm, un centurion vint à sa rencontre et le supplia en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et souffrant cruellement. » Et Jésus lui dit, « Je viendrai et je le guérirai. » Et le centurion répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Comme pour dire, « Tu vas venir chez moi ?»« Non, Seigneur, tu n'as pas besoin de faire cela. » Dis-le simplement, et cela se fera. Car je suis un homme soumis à l'autorité. Cet homme comprenait l'autorité. Il comprenait la hiérarchie et le fonctionnement des choses. Ayant des soldats sous mes ordres, poursuit le verset 9, et je dis à celui-ci, va, et il va. Et à un autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Jésus écoute donc, en se disant, intéressant. Jésus entendit cela et s'émerveilla. Et il lui dit, en vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une si grande foi, même parmi ceux qui me suivent. Non, pas même en Israël. Cet homme a demandé au Christ de guérir son serviteur. Christ a répondu, « Bien sûr, je viendrai chez toi et je le ferai. » Cet homme dit, « Attends, Seigneur, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Je comprends ce qu'est l'autorité. Je dis aux gens d'aller faire ceci ou cela. Je ne suis pas là, et ils le font. Bien sûr, tu peux faire la même chose. » Cet homme comprenait ce qu'était l'autorité. Et qu'a dit Christ? En fait, il s'est émerveillé. À quoi a-t-il lié cela? À la foi. Il faut de la foi pour comprendre véritablement et correctement l'autorité, mes frères. Et il a dit qu'il ne l'avait pas trouvée en Israël. Les États-Unis sont une nation d'origine israélite. Cela témoigne de la difficulté et de la rébellion, et j'utilise ici le terme « rébellion » dans son sens traditionnel. Cela témoigne de la rébellion que nous observons dans notre nation et dans bon nombre de nos foyers. Il n'avait pas trouvé la foi en Israël. Ce païen, ce centurion, comprenait le gouvernement. Il comprenait l'autorité. Mais même cette compréhension de l'autorité dépasse l'entendement humain. Allez au chapitre 2 de la deuxième épître de Pierre. Chapitre 2 de la deuxième épître de Pierre. Chapitre 2, verset 9. Le Seigneur s'est délivré les pieds de l'épreuve, et réservé les injustes pour le jour du jugement, afin qu'ils soient punis. Mais surtout ceux qui marchent selon la chair et les convoitises impures, et qui méprisent l'autorité. Ces gens-là méprisent donc l'autorité. Ils sont présomptueux, ceux qui méprisent l'autorité, rebelles. Ils n'ont pas peur de faire quoi? De médire des dignitaires. Combien de fois cela se produit-il aujourd'hui? Des gens qui médisent des autorités. On le voit partout. Malheureusement, on le voit parfois même dans l'Église. Médire des autorités. Et voici le point essentiel, alors que les anges, qui sont supérieurs en puissance et en force, à tout être humain, ne portent pas d'accusation injurieuse contre eux devant le Seigneur. Et le fait est que même les anges, qui pourraient très bien, avec toute leur puissance et leur force, dire « Eh, on pourrait dire du mal de tout ce qu'on veut », même savent qu'il ne faut pas porter d'accusation injurieuse. Ces anges vertueux, et je pense à des passages des Écritures où même des anges impies comprenaient l'autorité. Je pense aux esprits impurs ou aux démons qui ne voulaient pas que Christ les punisse à ce moment-là. Ils comprenaient l'autorité. Mais même ceux qui dépassent l'humain comprennent l'importance de l'autorité. Et c'est là toute la signification de ce lien. Si nous apprenons l'autorité au sein de la famille, nous sommes capables de l'exercer au-delà du foyer, sur le lieu de travail, à l'église. Toute autorité que Dieu place dans nos vies, il est évident que cette autorité se perpétue auprès de nos parents, même après notre départ de la maison. Dieu nous enseigne à vivre sous l'autorité avant de l'exercer. C'est très important à comprendre. L'autorité, mes frères, c'est un mode de vie. Revenons au chapitre 2 de la première épître de Pierre et lisons le verset 17. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 17. Nous l'avons déjà lu, mais nous allons le relire. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 17. Honorez tous les hommes. Je ne vois aucune restriction ici. Honorez tous les hommes. Aimez la fraternité. Craignez Dieu. Honorez le roi. Nous avons établi plutôt un lien avec l'autorité civile. Il y a ici une perspective différente. Le point essentiel est que Dieu se sert de Pierre pour montrer que l'honneur s'étend à tous les domaines de notre vie. À tous les domaines de notre vie. Un principe est enseigné ici. Cet honneur, l'amour de la fraternité, la crainte de Dieu, l'honneur rendu au roi. Tout cela est intimement lié, tout est indissociable. Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12. Passons en revue plusieurs versets qui traitent de l'honneur et de son rôle essentiel dans nos vies. Romains, chapitre 12, verset 10. Romains 12, 10. Ayez les uns pour les autres des sentiments de bienveillance, avec un amour fraternel, dans l'honneur, en vous accordant mutuellement la préséance. Le public auquel s'adresse ce passage est donc composé de chrétiens, Et l'honneur commence par la manière dont nous devons nous traiter les uns les autres, ou montre comment nous devons le faire. Nous devons estimer les autres, leur témoigner du respect, nous servir les uns les autres, et non nous faire concurrence. Nous devons nous servir mutuellement, estimer les autres plus que nous-mêmes, les faire passer avant nous-mêmes. L'honneur transforme notre attitude et notre manière d'aborder les autres. Lévitique 19. Lévitique 19. Je vais simplement parcourir ici quelques versets qui nous aideront à comprendre l'importance de l'honneur dans nos vies et la manière dont nous devons le mettre en pratique. Lévitique 19, verset 32. Lévitique 19, 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et que feras-tu? Tu honoreras la face du vieillard et tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. C'est Dieu qui prononce ces paroles et qui fait usage de son autorité. Nous devons honorer ces personnes aux cheveux blancs. Elles ont vécu leur vie. Elles ont fait l'expérience de la vie. Elles ont commis des erreurs. Elles ont surmonté des épreuves. Elles en ont tiré des leçons. Elles sont encore en vie et ici pour en témoigner, pour raconter leur histoire. Nous devons nous lever, et dans de nombreux cas, en fait, nous lever physiquement lorsqu'une personne âgée s'approche de nous. Il s'agit simplement de se lever physiquement, mais aussi de la manière dont nous les considérons et dont nous les traitons. Malheureusement, beaucoup de gens se dressent contre les cheveux blancs plutôt que l'inverse. Première Épître à Timothée, chapitre 5. Première Épître à Timothée, chapitre 5. Revenons au Nouveau Testament. Première Épître à Timothée, chapitre 5, verset 17. Première Épître à Timothée, chapitre 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui peinent à la prédication de la parole et à l'enseignement. C'est cela, le ministère. Frères et sœurs, nous devons honorer le ministère. Un double honneur. Les ministres sont les représentants de Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes les représentants de Dieu. Les ministres sont dignes ici, comme nous le disons, dignes d'un double honneur. Évidemment, cela implique une grande responsabilité pour les ministres, car nous sommes les représentants de Dieu. Malheur à nous si nous n'assumons pas cette responsabilité, qui nous rend dignes d'un double honneur, avec beaucoup de soin et de prudence. Commençons ici, dans la première épître à Timothée. Dans le même chapitre, le chapitre 5, remontons un peu plus haut, au verset 3, honorez les veuves qui sont véritablement veuves. Nous devons honorer les veuves. Il y a beaucoup de veuves parmi nous. Certaines sont veuves parce que leur mari est décédé. D'autres sont des veuves spirituelles. Leurs maris ne font pas partie de l'Église, et elles doivent servir Dieu et accomplir ses tâches seules. Dans certains cas, les maris sont réticents. Dans d'autres, ils ne le sont pas. Mais nous devons honorer les veuves. Prendre soin de nos veuves. Elles sont parfois démunies, ou ont certainement besoin d'aide. Le terme « démunie » est peut-être un peu fort, mais elles ont assurément besoin de notre aide, de notre soutien. Elles doivent sans aucun doute bénéficier de notre honneur. Encore une fois, elles ont vécu une vie bien remplie. Elles ont de nombreuses histoires à raconter. Premier Épître de Pierre, chapitre 3. L'honneur est omniprésent ici dans les Écritures, et si nous ne l'avons jamais appris au sein de notre foyer, comment pouvons-nous le mettre en pratique dans la vie? Première Épître de Pierre, chapitre 3, verset 7. Première Épître de Pierre, chapitre 3, verset 7. De même, vous, les maris, vivez avec elle selon la sagesse, en honorant la femme comme un vase plus fragile, et comme étant co-héritière de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas entravées. Marie, si vous voulez que vos prières soient exaucées, honorez votre femme. Ne maltraitez pas votre femme, ni verbalement ni physiquement. Dieu désapprouve cela. L'Église désapprouve cela. Il n'est pas acceptable de maltraiter nos femmes. Elles sont le vase le plus fragile, tant physiquement qu'émotionnellement. Les émotions, c'est normal. Dieu nous les a données à tous. Les femmes peuvent être plus émotives, et elles doivent l'être. Évidemment, mesdames, vous devez maîtriser vos émotions. Vous devez maîtriser vos émotions. Hommes, vous devez également maîtriser vos émotions. Mais, Marie, honorez vos épouses. C'est un commandement de Dieu. Si vous voulez que vos prières soient exaucées, honorez votre épouse. Ce cinquième commandement commence au sein du foyer. Pensez à honorer votre épouse. Père, concentrez-vous là-dessus pour l'instant. Devinez qui vous observe. Les enfants. Ils vous observent. Honorez-vous votre femme? Honorez-vous maman? La maltraitez-vous? Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, verset 22. Colossiens, chapitre 3, verset 22. Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, non pas en faisant semblant de servir pour plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Et quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que c'est du Seigneur que vous recevrez la récompense de l'héritage, car vous servez le Seigneur Christ. L'honneur va de pair avec l'obéissance. Nous ne sommes plus des esclaves aujourd'hui. On n'entend plus souvent parler de serviteurs et de maîtres, mais l'équivalent de cette relation se retrouve sur le lieu de travail. Nous avons tous un responsable. Nous avons un patron ou quelqu'un qui est à la tête de l'équipe. C'est là un autre cadre où nous pouvons mettre en pratique l'honneur. C'est probablement la situation dans laquelle la plupart d'entre nous se trouvent. Nous ne vivons pas tous chez nos parents, et nous honorons notre père et notre mère, même si nous devons évidemment le faire. Mais nous avons tous un emploi. Nous avons tous un lieu de travail où nous devons honorer et obéir, et comme il est dit ici, accomplir ce qu'on attend de nous et travailler comme pour le Seigneur. Mais mon patron, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, elle. Eh bien, nous devons travailler pour le Seigneur. Nous devons être honnêtes. Nous devons être assidus. Nous devons travailler de tout notre cœur. Pourquoi? Parce que nous le faisons pour le Seigneur. Nous servons Dieu. Le lieu de travail n'est que le cadre dans lequel nous accomplissons ce que nous faisons. Si vous vous trouvez dans une situation où vous ne pouvez pas vous acquitter de votre travail, si vous rencontrez des difficultés, commencez par faire preuve d'humilité. Demandez de l'aide à Dieu. Il vous aidera. Mais si, en fin de compte, vous ne parvenez pas à vous acquitter de vos tâches et à obéir à Dieu, vous devez changer d'emploi. Plus facile à dire qu'à faire. Je ne vous conseillerais pas de démissionner sans réfléchir si vous ne pouvez pas vous épanouir là-bas. Soumettez-vous à l'autorité. Soumettez-vous à l'autorité. Vous avez besoin d'argent. Vous devez pouvoir manger, subvenir à vos besoins et avoir un endroit où vivre. Mais nous devons obéir à ce verset. Nous devons nous soumettre à l'autorité. Nous devons obéir à notre maître sur notre lieu de travail. Le cinquième commandement, mes frères, commencez par ton père et ta mère, mais son champ d'application s'est élargi. Nous l'avons élargi rien qu'avec ces quelques versets. Nous l'avons étendu à Dieu, aux dirigeants civils, au ministère, aux maris qui honorent leurs épouses. Évidemment, cela vaut aussi dans l'autre sens, honorer nos employeurs, honorer les veuves, les personnes âgées, honorer nos frères, honorer tous les hommes. Tout cela est très important. Tout cela est très important. L'honneur n'est pas simplement quelque chose que l'on manifeste. Il fait partie de ce que Dieu édifie en nous. Rappelez-vous, j'ai dit que nous devons nous soumettre à l'autorité avant de pouvoir exercer l'autorité. Cela commence à élargir vraiment, vraiment, vraiment cette idée du cinquième commandement et à expliquer pourquoi il est si important. La réponse à la question de savoir pourquoi le cinquième commandement est si important, en fin de compte, mes frères, c'est qu'il nous oriente vers la famille de Dieu, vers le royaume de Dieu. Rappelez-vous, j'ai dit au début que c'était quelque chose de bien, bien plus grand. Bien, bien plus grand. Marc, chapitre 1. Marc, chapitre 1. Quelque chose de bien, bien plus grand. Marc, chapitre 1. Le début du ministère du Christ. Il donne le ton. Il explique pourquoi il est là, sa mission, pourquoi il est venu sur terre. Marc, chapitre 1. Beaucoup d'entre vous ont probablement marqué ce passage dans leur Bible. Marc, chapitre 1, verset 14. Or, après que Jean eut été mis en prison, Jésus vint en Galilée. En Galilée, pour faire quoi? Il prêchait l'évangile du royaume de Dieu, et disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. » Lorsque Christ est venu, son but, sa mission, était de prêcher l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est le royaume de Dieu à venir. La bonne nouvelle. C'est ce que signifie le mot évangile concernant le royaume de Dieu à venir. Si nous voulons comprendre pourquoi Dieu met l'accent sur l'autorité, nous devons comprendre où il nous conduit, quel est le but ultime de tout ce que nous faisons. Et Christ vient de l'expliquer en quelques mots. La bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir. Qu'est-ce qu'un royaume? Qu'est-ce qu'un royaume? Ce n'est pas seulement une idée ou un concept. Dieu est en train d'instaurer un véritable royaume. Comme vous l'avez entendu expliquer par M. Pack et comme vous l'avez lu, tout royaume comporte quatre éléments. Il possède un territoire. Il doit donc disposer d'un territoire, d'un souverain, de sujets, c'est-à-dire de personnes placées sous l'autorité du souverain, et d'un gouvernement doté de lois. Ainsi, tout royaume comporte quatre éléments, un territoire, un souverain, des sujets et un gouvernement doté de lois. Si vous retirez l'un de ces éléments, mes frères, vous n'avez plus de royaume. Et c'est précisément ainsi que se présentera celui qui va venir. Donc, si le royaume de Dieu dispose d'un gouvernement, qui va l'administrer? Apocalypse. Chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Et il a fait de nous, pour notre Dieu, des rois et des prêtres, et nous régnerons sur la terre. Un passage biblique très familier. Mes frères, nous sommes en train d'être formés, formés pour Dieu en roi et en prêtre. Et nous régnerons sur la terre. Être formé. C'est un processus. Nous devons être formés pour devenir des rois et des prêtres. Nous devons apprendre. Nous devons recevoir un enseignement. Où cela commence-t-il? Au sein de la famille. En honorant notre père et notre mère. En comprenant l'autorité de Dieu. En comprenant l'autorité humaine. Dieu partage la responsabilité d'administrer les lois dans son royaume. Il pourrait tout faire lui-même, mais il ne procède pas ainsi. Il partage cette responsabilité. Il élargit sa famille. Dieu est une famille. Il a un gouvernement. Il a un royaume. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Nous parlons maintenant de la vision d'ensemble. Romains, chapitre 8. Un royaume va venir. Nous allons devenir roi et prêtre. Romains, chapitre 8, verset 17. Romains 8, 17. Commençons par le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes, quoi? Enfants de Dieu. Ce langage est, parfois, mes amis, je pense que nous pouvons trop compliquer les choses, et les mots perdent soudainement leur sens, alors qu'ils ne devraient pas. Que sommes-nous? Des enfants de Dieu. Eh bien, vous savez ce qu'est un enfant, et nous savons qui est Dieu. Des enfants de Dieu. Si nous sommes des enfants, cela signifie que nous sommes des héritiers, et vous savez ce qu'est un héritier. Un héritier est quelqu'un qui reçoit un héritage. Et si nous sommes héritiers, héritiers de qui? De Dieu. Co-héritier avec Christ. C'est extraordinaire. Si tel est le cas, si nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, si tel est le cas, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés ensemble. Frères et sœurs, où tout cela nous mène-t-il? Au royaume de Dieu. Des rois et des prêtres. Des héritiers de Dieu. Des co-héritiers avec Christ. Qu'est-ce que Dieu? Un père. Il a des enfants. Christ est notre frère aîné. Nous devenons des fils et des filles de Dieu. Qu'ont les fils et les filles? Des parents. Que devons-nous faire? Le cinquième commandement. Honore ton père et ta mère. Les leçons sont très claires. C'est une ligne droite. Très significative. Très importante. Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 7. Apocalypse 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera de toutes choses. Y croyons-nous? Y croyons-nous? Celui qui vaincra héritera de toutes choses. Tout? Eh bien, tout. Ce serait l'univers. Maintenant, quoi qu'il y ait au-delà, mais l'univers est un bon point de départ. Celui qui vaincra héritera de tout cela. Tout. Toutes choses. Je serai son Dieu, et il sera mon quoi? Mon fils. Frères et sœurs, le cinquième commandement est d'une importance capitale. Il est d'une importance capitale. Il concerne les enfants, un père et une mère. Dieu est un père. Nous sommes ses enfants. Dieu est une famille. Pour fonctionner, les familles ont besoin d'autorité. Elles ont besoin d'une direction. Il y a des responsabilités. Il y a un ordre. Tout royaume a des dirigeants, des sujets, un territoire et un gouvernement. Toutes ces pièces, mes frères, s'emboîtent parfaitement. Cela nous ramène en fait au pont. Si Dieu a donné le cinquième commandement d'honorer son père et sa mère, c'est parce qu'il nous enseigne les principes qui, un jour, nous aideront à exercer l'autorité dans son royaume. Un début simple. Un début qui parle du dessein de Dieu, commençant par un enfant, un père et une mère. Cet enfant qui honore son père et sa mère. Puis, il apprend ses leçons, les met en pratique tout au long de sa vie, et enfin, les applique dans le royaume de Dieu. Dieu nous apprend à vivre sous l'autorité avant de nous demander d'exercer l'autorité. Les parents, les bons parents, le comprennent. Aucun parent aimant ne va remettre les clés de la voiture familiale à un enfant qui n'a même pas le permis de conduire en lui disant « Bonne chance !» Ne fais pas d'accident. Cela n'arriverait jamais. C'est absurde. C'est ridicule. Pourquoi Dieu ferait-il cela? Pourquoi Dieu nous remettrait-il les clés du royaume, les clés de l'univers, sans nous enseigner et sans s'assurer que nous savons comment nous en servir? Les parents le savent bien. Bien sûr, Dieu le sait. Au début de ce message, nous avons vu que le cinquième commandement fait le lien entre les deux parties de la loi de Dieu. Il fait le lien entre Dieu et l'homme. Le verset 4 face au verset 6 et 7 des commandements. Le 5 étant le pont. Il fait le lien entre l'enfance et l'âge adulte. Nous apprenons des leçons au sein de notre foyer que nous mettons ensuite en pratique dans la vie. Mais en fin de compte, mes frères, ce cinquième commandement fait le lien entre la famille physique et la famille de Dieu. Il fait le lien entre le temps et l'éternité, là où nous allons. Ce pont commence par l'honneur rendu à notre père et à notre mère, mais il aboutit à l'honneur et au service de Dieu pour toujours. C'est très significatif. Revenons au commencement en ce 4 juillet, un moment idéal pour faire une pause et, bien sûr, pour être très reconnaissant. C'est ici que Dieu a établi son œuvre. Cette nation n'est pas parfaite, loin de là, mais c'est là que Dieu a établi son œuvre. Et cela fait 250 ans qu'elle a été fondée. L'histoire nous rappelle que tout gouvernement humain a eu un commencement. Et nous parlons ici des débuts des États-Unis. De même, tout gouvernement humain a ses limites. Rappelez-vous que nous ne devons pas fonder notre respect ni la légitimité de l'autorité sur la perfection des gouvernements humains. Mais le fait est que Dieu prépare quelque chose de bien, bien plus grand en matière de gouvernement et d'autorité. Il prépare un royaume qui englobera toutes les nations. Il gouvernera la terre entière. Il ne disparaîtra jamais. Il sera toujours là, pendant de très nombreuses générations. Le royaume à venir exige un gouvernement juste. Il exigera des hommes et des femmes qui ont appris à honorer, à se soumettre et à exercer l'autorité. Rappelez-vous, nous devons nous soumettre à l'autorité avant de pouvoir exercer l'autorité. Voilà, mes frères, pourquoi le cinquième commandement va bien au-delà d'un simple commandement destiné aux enfants. C'est l'un de ces commandements qui constitue une leçon fondamentale pour les futurs fils et filles. Il nous enseigne comment vivre sous l'autorité avant de pouvoir exercer l'autorité. Mes frères, les leçons du cinquième commandement commencent au sein de la famille, mais elles nous préparent pour l'éternité.